Et salut à tous, bienvenue pour ce show numéro 220 sur Amix Réflexion Live. Ça fait plaisir de se retrouver pour une émission un petit peu spéciale ce soir parce qu'on va avoir trois invités. Ils vont se succéder un à un, on va pas les avoir les trois en même temps. Et ça va parler d'actualité, contrairement à d'habitude où on fait un petit peu de l'intemporel avec des interviews avec un seul pilote. Et bien là, on en aura trois, on va avoir beaucoup de sujets à balayer tous ensemble, mais ça va être cool, un nouveau format, ça va être plutôt sympa, plutôt rythmé. Et de notre côté, tout va bien. On était en live la semaine dernière, en live cette semaine. On est assidus en ce moment au niveau des lives, mais c'est normal, c'est parce qu'il y a beaucoup d'actualités à traiter. Et en parlant d'actualité, MXR Communication, MX Réflexion, vous l'avez peut-être vu passer, il y a une offre d'emploi en alternance qui a été publiée en début de semaine. On a reçu pas mal de candidatures, ça fait plaisir. On lance les entretiens en fin de semaine, mais n'hésitez pas à faire passer le mot. Candidature pourquoi ? Pour de l'alternance pour cadreur monteur, donc c'est pour de la vidéo essentiellement, mais voilà, on étudiera toutes les propositions. On a tout type de profil pour l'instant, c'est plutôt sympa à voir. On va peut-être galérer à faire notre choix, mais bon, ça fait partie du métier, n'est-ce pas Blaise ?
C'est ça, exactement. Bonsoir à tous. Donc, du coup, comme tu l'as dit, ça va être vidéo moto d'un côté et vidéo BTP de l'autre, parce que toi, tu connais pas mal le BTP. Mais en tout cas, ce soir, on se retrouve, comme tu l'as dit, avec un format un peu spécial. Trois invités, ça va s'enchaîner sur 20 minutes, les trois vainqueurs de ce week-end. Donc, on va parler pas mal de motocross, pourquoi pas un petit peu de boue, et on va voir comment ça s'est passé ce week-end. Donc bonsoir, bonsoir Maxime. Comment ça va ? Bien récupéré, on a parlé très, très rapidement en off. De ce week-end si tu avais bien récupéré, donc voilà, bonsoir à toi.
Ouais, salut Nico, salut Blaise, salut à tous. Ça va ouais, bien, on a tout lavé là et c'est bon, c'est reparti pour l'entraînement.
C'est bon, c'est
reparti. Galère pour toi un week-end comme ça, en tant que pilote de ton niveau, de se remettre de ça. Est-ce que t'es beaucoup plus impacté par un week-end comme ça dans la boue ou c'est pareil que quand c'est un week-end sur le sec? Alors je parle non. En termes de physiquement, peut-être aussi derrière plus des choses à laver pour toi, je sais pas, je me représente pas bien ce que ça représente comme boulot pour un pilote comme toi.
Non, honnêtement ça va, non ça va, parce que moi j'ai la chance d'avoir toute la structure derrière moi, donc voilà, tout les motos, le matériel, tout ça, c'est tout qui s'occupe qui gère ça, donc non, moi j'ai juste mes affaires, mes petits casques, mes bottes, laver un petit coup le camion et puis c'est réglé. Après physiquement c'était un petit peu plus compliqué, ouais, musculairement je dirais, parce qu'avec les grosses ornières il fallait bien lever les jambes, on est souvent déséquilibre, donc ça travaillait peut-être un petit peu plus, mais non ça va, ouais, comme j'ai la chance d'avoir une bonne équipe derrière, on s'en remet vite, ouais.
Et comparé à un week-end de Supercross, tu sais, un week-end de Supercross, on va dire c'est moins long mais beaucoup plus rythmé. C'est quoi la récupération derrière? Tu sens plus de courbature après du SX ou après du MX dans la boue?
Ouais, le MX je pense ça use un peu plus en fait sur la longueur que le SX, en fait c'est tellement court, ouais je pense ça pompe un peu moins quand même le Supercross, donc ouais, le MX c'est plus ouais, un peu plus d'endurance, donc ouais ça pompe un petit peu plus quand même au niveau des muscles, ouais.
Bon, retour en 4-50 cette année, puisqu'on parle de muscles. Est-ce que tu as eu le temps nécessaire déjà pour te préparer à cette saison après une grosse saison en 250?
Ouais, bah en fait, c'était. Ouais, du coup, on a rattaqué quand même le cross assez tard avec l'équipe. Et ouais, c'était donc après Dortmund, donc mi-janvier. Donc, on n'a pas eu beaucoup de temps. Du coup, j'ai commencé quand même l'entraînement avec la 2,5. Et voilà, on s'est aperçu que le championnat du monde, il n'y avait plus de catégorie 2,5 pour le mondial de supercross, pour le world. Donc. Du coup, on est un petit peu entre deux et on a pris la décision de passer en 4,5 pour refaire du coup une saison complète en 450. Et voilà, donc ouais, j'ai pas eu beaucoup de roulage en plus sur la 4,5, mais voilà, il y a eu la capelle d'annuler, donc ça a laissé quand même trois semaines de plus pour s'entraîner. Mais voilà, ouais, c'est vrai qu'avant Sommière, j'avais roulé, j'ai fait quoi, deux entraînements avant la course, quoi. Donc ouais, c'était un petit peu light, mais au final ça l'a fait, donc je pense que la 2,5 ça m'a apporté pas mal de choses au final, donc non, du coup on est prêt pour cette saison, ouais, ce week-end s'est très bien passé, donc c'est parti.
D'ailleurs on en parle souvent des pilotes, tu sais, qui sont en 2,5, qui vont faire des piges en 4,50, même aux US, en Supercross et tout, qui font une belle performance, l'année d'après ils passent en 4,50, et au contraire ils réitèrent jamais cette performance. Toi tu penses que ça peut venir de quoi justement, ce fait de quand on passe dans la cylindrée supérieure, et même on a des coups d'éclat comme des all shots, des trucs comme ça, et où après, quand c'est notre cylindrée habituelle, on fait plus ces coups d'éclat. Tu penses que ça vient de quoi, ça?
Ouais, bah, c'est difficile à dire. Ouais, je pense qu'on a, on a quand même un côté où il y a quand même la. On a, ouais, on va dire le la demi, ça demande. En fait, il faut tout le temps travailler sur la moto. Donc, en fait, tu es obligé de tout le temps bouger sur la moto, de chercher la traction tout le temps. Donc, en fait, quand on passe sur le 4,5, ouais, on va dire qu'on a une technique, je pense, qui est un petit peu plus développée avec la 2,5. Et du coup, pour certains, bah, ouais, dès la première année, dès les premières courses, ils peuvent faire vraiment des coups d'éclat parce que la 4,5, bah, en fait, on n'a pas besoin de. Ça ne demande pas autant de mouvement, je pense. Et je pense que c'est ça. Du coup, il y en a certains, ils vont peut-être plus vite s'adapter que d'autres. Et ça peut faire des très belles choses. Bah, comme bah, je crois que c'est Romain Fèvre qui avait été champion du monde dès sa première année en 4,5. Souvent, la première année, je trouve, de ceux qui passent du 2,5 au 4,5 font quand même une belle année. Ouais.
Ouais. Retour sur ce week-end, du coup, t'as quoi toi comme, on va dire comme feedback après ce week-end, tu sais, comme souvenir qui te reste en tête. Est-ce que t'as un goût positif? Bon, bien sûr, tu repars en tête du championnat, t'as bien roulé ce week-end, mais voilà, est-ce que tu t'étais préparé à ça, à la boue? Est-ce que tu t'étais entraîné justement dans la boue ou pas du tout?
Et ben alors déjà le premier truc qui me vient un peu à l'esprit c'est ouais, le club ils ont vraiment fait un gros boulot sur le terrain parce qu'honnêtement avec la pluie qui est tombée ils ont vraiment bien bossé tout le week-end donc je pense qu'on a quand même eu de la chance que voilà il y avait je sais pas combien d'engins sur le terrain voilà ils ont vraiment vraiment bien bossé dessus donc ça c'était top pour les courses pour l'après-midi et après bah ouais forcément un petit peu préparé parce que moi bah, en Bourgogne ouais l'hiver c'est quand même souvent dans la boue. C'est des conditions que je connais. Et puis en plus, ouais, mercredi, je m'étais entraîné à Uzel et c'était limite les conditions courtes. C'était hyper gras au début, ça collait. La moto, elle faisait 15-20 kilos de plus. Et puis après, c'est devenu top. C'est un peu ce qui s'est passé ce week-end. Ouais, non, c'est cool. Sommières, ça s'était bien passé. Donc, ouais, j'avais pas forcément d'attente, mais. Voilà, continuer dans cette lancée et du coup bah ouais ce week-end vraiment vraiment content un all shot et puis deux manches solides ouais.
D'ailleurs, on le voit, hein, on voit là, je fais apparaître le classement général, on voit que tu as gagné les deux manches, on voit derrière qu'on a Valentin Guillot, Grégory Aranda, Kevin Ormeau, Benoît Paturel. Donc voilà, tu as fait deux manches solides pour l'ouverture, ça c'est de bon augure pour la suite. Tu le sens comment toi, sur le sec? Est-ce que tu penses que il y aura plus de concurrence sur le sec, que ça sera pareil, voilà, qu'est-ce que tu as toi en tête par rapport à la suite?
Ouais, bah après les manches de l'après-midi, honnêtement, c'était pas dans la grosse boue, hein.
Ouais, c'était loin debout, du coup.
Ouais, c'était vraiment terrain typé, limite un. Ouais, alors pas Grand Prix parce que c'était quand même un petit terrain, mais c'était des ornières partout, des trous, il y a quand même des traces qui sont ouvertes, on pouvait changer de traces, donc ça évoluait aussi au fur et à mesure de la manche. Donc non, c'était des conditions, ouais, des vraies conditions de motocross. Après, non, bah après oui, les concurrentes, de toute façon, on les connaît, et ils seront là toute l'année. Donc c'est voilà, ce qui est pris déjà est pris ce week-end. Et puis après, bah, on sait, hein, chaque week-end, tout est remis à plat, tout est remis à zéro. Voilà, chaque départ, il peut se passer tellement de choses. Donc voilà, mais dans tous les cas, c'est cool de voir que la vitesse est là, que techniquement on est pas mal, que la moto marche bien. Donc ouais, comme j'ai dit, ça annonce une bonne saison.
Il y a plusieurs anciens champions de France dans ta catégorie, dans la catégorie MX1. Est-ce que tu penses que c'est le niveau le plus élevé des 10 dernières années dans cette catégorie MX1? Un champion de France, bon, il y a toi, bien évidemment, il y a Valentin Guillot, il y a Grégory Aranda, on a Goupillon qui a été champion de France MX2. Enfin, voilà, ça fait quand même un plateau assez homogène, j'ai l'impression.
Ouais, carrément, ouais. C'est clair que ça fait des gros noms quand même derrière la grille. Après, ouais, on est un peu les vieux, du coup, les vieux de la catégorie, mais ouais, non, ça met du gaz, donc c'est cool. Après, te dire ou pas si c'est la plus relevée des 10 dernières années, ouais, je sais pas, je me souviens quand même quand il y avait justement les primes de fin d'année, là où il y avait les 20 000 euros, il y avait quand même des gros pilotes, hein. Je me rappelle, il y avait Yarling qui
Jusqu'à
avait
quelle
gagné.
année ça? C'est 2016, ouais, quelque chose comme ça. 2016,
Je crois
17.
que c'était 2015, ouais,
2015,
2015 ou
ok.
2016. Je crois que c'est Xavier Bock qui avait remporté la dernière grosse prime, ouais. Mais non, ça mettait du gaz aussi, hein, quand il y avait Seb Pourcel et tout ça, non, ça roulait aussi. Mais non, ouais, c'est là, il y a vraiment les 5, 6 premiers, ouais, c'est homogène. Et bon, après, derrière, Quand on voit ouais, qu'on était 21 inscrits dès la première course, là, ça fait un petit peu réfléchir. Je pense qu'il y a quand même quelques trucs à, quand même à regarder et à réfléchir, je pense, ouais, à changer.
Ouais, je voulais parler de ça et parler un petit peu
Pareil, j'avais une
du
question
club
sur ça,
aussi.
moi aussi.
Ouais, mais c'est. Est-ce qu'il y avait du monde déjà, un public? Bon, on sait que c'est compliqué avec la pluie de faire venir du monde, mais c'était comment en termes
Ouais,
de.
alors bah, vu la météo, je te dirais qu'il y avait quand même du monde, quoi, parce que c'était quand
Ouais.
même. Ouais, pluie jusqu'à 10 h dans la boue tout autour du terrain. Donc il y avait un peu de spectateurs. Après, c'est sûr, c'était pas non plus rempli, quoi.
T'en penses quoi, toi, justement, de l'évolution de ce format élite, toi, t'es là depuis quand même un moment, tu fais du motocross depuis un moment. Toi, si tu te prenais un peu de recul sur notre sport et le sport de haut niveau en France, donc c'est-à-dire l'élite, tu dirais que c'est voilà, que c'est comment, que c'est une évolution qui est positive pour la suite, ou au contraire, tu apporterais quelques touches différentes?
Bah, on va dire dans les premières catégories, je trouve que ça va encore parce que bah, les jeunes, ils sont encore motivés, donc il y a encore pas mal de monde en junior, pas mal de monde en 2,5, mais c'est vrai que du coup en 4,5, bah, c'est plus des personnes qui vont travailler la semaine, donc du coup bah, qui vont regarder les dépenses, qui vont regarder tout ça, et là quand on voit qu'il n'y a même plus de prime à la qualif, je pense que ça c'est l'un des problèmes, je veux dire, le mec il va pas se taper 500 km. Tout ruiné dans la boue, sachant que la semaine il a taffé je sais pas combien d'heures. Enfin voilà, faudrait quand même, enfin il y a un minimum pour que ouais, il se qualifie, ça lui rembourse quand même une partie de son week-end quoi. Que voilà, on sait tous que bah ouais, le nerf de la guerre c'est voilà, c'est les finances et là-dessus je pense que ouais, faut trouver des solutions parce que ouais, quand j'entends que ce soit Xavier ou je sais plus qui on en parlait avant, il y avait quand même, il y avait je sais plus 200 euros, je crois, ou 200, 250 quand même. Donc c'était quand même, voilà.
Ça coûtait moins cher, ça rapportait plus, donc
C'est ça, ouais,
tout
ça
mis bout à
coûtait moins
bout.
cher, ça rapportait un peu plus. Tu savais que si tu te qualifiais, tu avais quand même cette carotte-là des 250 euros qui, voilà, qui participait quand même grandement au week-end. Donc c'est quand même plus motivant que bah, tu y vas, ouais, tu gagnes rien. Et puis, comme dit, quand on a des conditions comme ça où tu. Bon, là, ça a été encore parce qu'il n'y a pas plu quand on a eu les manches et tout, mais bon, tu peux tout ruiner dès la première course. C'est, ouais, c'est, ça se comprend. Après, il y avait aussi un petit peu, du coup, en fait, on a l'élite et il y a le National 250, le National 450 à côté. Limite, ça fait un peu trop de championnat, moi, je trouve. Quand on voit là, j'en parlais avec un copain, là, il va à l'ouverture ce week-end à Issingeaux, je crois, du National, ils sont 80 inscrits. Enfin, je veux dire, là, ils sont 80, et nous, l'élite, c'est censé être la catégorie un peu qui représente la France, un peu élite. Et ouais, on était 23, je crois, en MX1, donc en tous les cas, il y a quelque chose à.
Une année, j'avais une idée, mais bon, c'est toujours pareil, c'est les idées, c'est bien beau, il y a toujours des avantages et des inconvénients dans chaque idée, mais c'est l'idée de rassembler les nationaux, les élites sur un week-end, de faire des qualifs, et de ces qualifs, d'en tirer la catégorie élite et la catégorie nationale sur 2 jours, et qu'on ait du monde en MX1, MX2, et qu'on fasse un peu le format de ce qui se fait aux US, c'est-à-dire on s'inscrit même au dernier moment, on baisse un peu le coût des inscriptions, il y a plus de monde, il y a plus d'engagés, il y a plus d'argent. Voilà, tout est. Voilà. Après, est-ce que c'est faisable ou pas? En tout cas, c'est une idée. Mais je pense que ça serait plus positif un peu de rassembler tout le monde, qu'on ait plus de monde. Mais c'est vrai que de voir une grille à 20 pilotes, c'est pas positif. Il y a moins de
Ouais,
monde,
non,
il y a
c'est
moins
tout.
d'engagement, il y a moins d'argent. Tout est tiré vers le bas, en fait. Donc c'est un peu compliqué.
Ouais, c'est clair, ouais, c'est clair. Et puis, ouais, du coup, je pense que, ouais, il y a moyen quand même de faire quelque chose. Que les pilotes, je veux dire, quand on va sur les terrains, là, il y en a des licenciés, il y en a des pilotes. Donc, faut réussir à les ramener parce que c'est pareil. Nous, on est devant, on a la chance d'être dans des teams, dans des équipes où on a des contrats, mais tout le monde, c'est pas comme ça. Donc, faire une course à 10 pilotes, ouais, en fait, au final, ça ressemble un peu à ce qui se passe en Grand Prix où, bah, voilà, où l'aspect financier, il fait vite le tri. Donc, faut essayer de retrouver des solutions. Peut-être, on en parlait justement au salon du deux roues avec Jean-Pierre Forest. Peut-être, du coup, reséparer les cadets juniors, en fait, eux, les reséparer de nous. Comme ça, déjà, il y aura peut-être plus de clubs qui pourraient aussi organiser des courses parce que là, on fait toujours un peu les mêmes terrains alors qu'on a quand même plein de terrains en France qui pourraient accueillir l'élite, mais qui ne sont pas en capacité avec le paddock à accueillir autant de pilotes d'un coup sur une manifestation entre toutes ces catégories. Donc ouais, je pense qu'il y a plusieurs trucs à revoir.
y a de quoi faire. Ouais.
Est-ce que tu penses que pour rendre notre sport un peu plus je veux dire, populaire, ou je sais pas, en tout cas pour redorer un petit peu le blason de l'élite, tu penses qu'il faudrait justement qu'il y ait tous ces pilotes derrière la grille? En termes de com, ça serait peut-être la meilleure des com au final. Et est-ce que tu penses que le fait de payer mieux les pilotes, en fait, de remettre les pilotes en fait à leur place, et de se dire ben, on va tout faire pour les pilotes, et c'est ça qui va faire que les spectateurs vont venir, c'est ça qui va faire que les sponsors vont être intéressés. Est-ce que tu penses que c'est la solution, c'est du moins le... Bon, toi t'es pilote, alors peut-être que tu vas tirer la couverture de ton côté, tu vas me dire ben oui, bien sûr, il faut faire ça, mais d'un point de vue objectif, est-ce que tu penses que c'est plutôt vers ça qu'il faut tendre plutôt que d'aller chercher des solutions ailleurs?
Bah ouais, je pense que dans tous les cas, plus il y aura de pilotes, plus les manches seront sympas, donc plus ça donnera envie aussi aux spectateurs de venir voir les courses. Là, quand il y a 20 inscrits, ouais, après l'entrée, je sais pas combien c'est, mais ouais, c'est sûr que c'est un peu triste. Donc ouais, je pense qu'il faut quand même essayer de trouver une recette où ça convient aux pilotes pro et aux pilotes aussi un peu moins pro. Qui travaillent la semaine et qui peuvent pas se permettre de dépenser autant d'argent dans un week-end comme ça. Ouais, je pense qu'il y a moyen quand même de trouver des solutions. Après, même médiatiquement, je pense que faut aussi essayer de travailler aussi avec ça, parce que ouais, essayer de retrouver des sponsors, retrouver des partenaires. Je pense que la Fédé, ils peuvent aussi travailler là-dessus pour essayer de redynamiser un petit peu ce championnat, quoi.
On a une question juste, puisqu'on va devoir, passer à Mathis en suivant. On a une question que je voulais relever, une question sur YouTube de Louis qui nous dit: l'FFM, ça serait sympa d'éviter la Bretagne encore en hiver. Les spectateurs ne veulent pas voir la neige. Alors il y a Mathis qui nous entend, il est en off là, du coup on parle de Bretagne, ça me fait rire. Mais alors attention, Louis, c'est pas une question, c'est un constat, mais attention, c'est pas forcément la FFM non plus qui décide de tout. Les clubs demandent des dates en fonction de quand ils peuvent organiser. Certains clubs ne peuvent pas organiser en été parce que les champs peuvent être cultivés. Enfin voilà, il y a quand même plein de facteurs qui font que on peut pas organiser quand on veut. Alors ouais, la Bretagne en hiver, c'est sûr, c'est pas l'idéal, mais il faut savoir que c'est pas forcément facile non plus pour les clubs, quoi.
Ouais, c'est pas facile, ouais, c'est clair, c'est pas facile. Et puis ouais, après peut-être on peut peut-être quand même commencer peut-être le championnat un petit peu plus tard, peut-être plus mars, fin mars, quand la météo est peut-être un petit peu meilleure, puis commencer peut-être une ou deux épreuves dans le sud, et ensuite monter un petit peu là-haut. C'est vrai que là-dessus, je pense que quand la Capelle, mois de février, cette année c'est pas passé, à cause de la météo, là c'était limite, donc
Bon, alors, on a des bonnes suggestions. Remettre les sponsors alcool et tabac. Voilà, il va falloir taper un petit peu.
On va faire passer la loi.
Au niveau des instances
du motocross, on va changer les lois.
Ouais. Mais allez-y, balancez des idées comme ça. On n'a pas fait gagner de t-shirt cette semaine. On va le faire gagner à la meilleure idée là en commentaire. Allez-y, balancez des idées. Moi, j'aime bien celle-là. Alcool et clopes, c'est bon. Ouais, c'est ça qui va sauver notre sport.
Déjà qu'il voulait interdire les boissons énergisantes il n'y a pas longtemps.
Bon, en tout cas, allez-y. Ben, Maxime, Blaise, c'est bon, t'avais plus de questions pour Maxime. Profite-en, c'est
bon. On a un flot de questions, mais on va pouvoir les enchaîner avec tous nos invités. Donc on est bon. Maxime, merci beaucoup. C'était un plaisir de t'avoir sur un court temps comme ça et d'avoir ton ressenti sur ce week-end.
Yes, merci à vous. À bientôt, bonne soirée.
Salut Maxime.
Allez, merci beaucoup, Maxime. Allez, du coup,
salut, Mathis Boiramé, du coup, le vainqueur à MX2 ce week-end à Bali. Mathis, comment ça va?
Bah, ça va très bien, et vous?
Eh bien, très bien, on a le son qui fonctionne et tout. C'est vrai qu'on serre un petit peu les fesses à chaque fois, qu'on a plusieurs invités comme ça, qu'on les enchaîne, on se dit « il va y avoir peut-être un petit bug ». Si tu peux mettre ton téléphone comme ça, si c'est un téléphone, ça serait le top. Comme ça, on profite pleinement de toi et de tes sponsors sur la veste. Magnifique. Bon, habitué de la boue, 1-1 ce week-end. T'étais comme à la maison, là, finalement, Mathis?
Ouais, 1-1, c'est top pour commencer le championnat, surtout pour un retour en 2-50, c'était cool, ça fait du bien, ça faisait longtemps que j'étais pas monté sur la plus haute marche du podium, et puis 1-1, c'est que du plus, que du bonheur.
Tu l'as ressenti comment, toi, ce week-end? Facile, des difficultés, tu te sentais bien, tu te sentais fatigué, comment, explique-nous un petit peu.
Bah, je me sentais bien. On a bien bossé cet hiver sur la moto, et puis même moi, j'ai bossé correctement. J'ai fait ce que j'avais à faire, et c'est vrai que après, on a toujours plus ou moins des doutes. Après, j'avais fait quand même une course de prépa où ça s'était plutôt bien passé, Et du coup, non, c'est une piste que j'aime bien. En plus, c'était un peu délicat avec des grosses ornières, des gros trous cassants. Et c'est sur ce genre de piste où on peut faire la différence. Et c'était cool.
Ouais, on voit que bah là on affiche un petit peu les résultats. On voit déjà que tu as 15 points d'avance au championnat. Toi, c'est vraiment ton objectif, le championnat de France élite cette année?
Ouais, c'est l'objectif. Franchement, c'était pour ça qu'on est redescendu un petit peu en MX2, d'avoir vraiment un objectif fixe, le chemin de France Élite. Et après, c'est un objectif, j'en ai plusieurs. Et c'est vrai que voilà, c'est pour ça que on a beaucoup développé la moto et surtout travaillé cet hiver pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et c'est vrai que voilà, ça commence plutôt bien. Il reste quand même. Beaucoup plus de courses que ce qu'on a fait. Et donc, on verra la suite.
Tu te considères plutôt comme un pilote de 150 ou 450 un jour, pourquoi pas performer aussi bien que ce que tu le fais en 250?
Bah, à vrai dire, je prends beaucoup plus de plaisir sur le 2,5. C'est une moto, voilà, que j'apprécie, que j'aime bien, sur laquelle je me sens bien. Donc c'est vrai que c'est top. La 4,5, ça demande ouais, beaucoup, beaucoup d'entraînement. Faut vraiment être sérieux pour piloter ce genre de moto. Maintenant, les motos, elles sont vraiment puissantes. Et ouais, on est préparé, mais on n'est jamais assez prêt. Donc c'est vrai qu'il faut du temps, il faut du roulage. Et puis, c'était le plus important de se faire plaisir sur la 2,5 maintenant aujourd'hui.
Une 2,5 pour toi, pour un pilote comme toi, on est obligé en élite de la préparer à fond ou une moto stock pourrait permettre à l'heure actuelle de gagner l'élite?
Non, sincèrement, on a bossé sur la moto, on a beaucoup développé avec FIF Motorsport, c'est un partenaire à moi et c'est lui qui s'occupe de mes motos, qui prépare mes motos, qui s'occupe de ma moto de course. C'est un bon mécano qui était dans les années passées très très bon et voilà. Et aujourd'hui, c'est lui qui s'occupe de nos motos, les motos du team. Sincèrement, on n'a pas fait grand-chose. Voilà, la moto, c'est déjà une très bonne moto de série. On a travaillé un petit peu dessus. On a surtout fait un très très bon jeu de suspension avec Peter chez 442. Et puis voilà, on a rien fait de spécial. On est sur des motos stock. On prend la moto et voilà, on roule, on la rôde et elle est prête pour la course, quoi.
Ouais, sur une 2,5 comme ça, niveau moteur, il y a quoi? Enfin, si tu parles rapidement de ce qu'il y a, il y a quoi? Un CDI, une ligne, c'est ça?
On est sur la moto, on est sur voilà, un CDI, un double injecteur et une ligne Acra. Et c'est pas voilà, une démultiplication différente de l'origine parce que bah, je pèse quand même un peu mon poids. Donc sur une 2,5, pour sortir, essayer de sortir devant, c'est important d'essayer des multiplications différentes. Sachant que voilà, on est deux, enfin, dans ma structure, on est deux pilotes différents. Et c'est important d'avoir les motos qui marchent, mais on est sur deux démultiplications différentes. Et voilà, parce qu'on a 20 kilos d'écart avec mon coéquipier, donc on est sur deux motos différentes.
On a un commentaire sur YouTube, Ralitété, qui nous dit bah, elle est pas stock. Mais je pense que oui, souvent, les pilotes, toi, tu as des références de mondial, en fait. Donc, tu as roulé un championnat du monde, tu sais comment marche une KTM Factory. Toi-même, tes Kawasaki, je pense qu'elles étaient bah, c'était des motos qui marchaient, tu étais capable de partir devant avec. Comparé à ces motos-là du mondial, comment elles se situent ta moto actuelle?
Ma moto actuelle, pour moi, à part quand ma moto, j'ai été champion d'Europe, sincèrement, elle s'en rapproche parce que bah, aujourd'hui, je prends du plaisir. Ma moto, dès que je monte dessus, j'ai qu'une envie, c'est de mettre du gaz, de rouler, de me faire plaisir. Après, voilà, c'est toujours pareil. En Grand Prix, c'est beau de loin, mais loin d'être beau. Et c'est toujours pareil. On a l'impression que c'est des motos de fou, mais il faut pas croire que voilà, tout le monde a du matériel de malade. Et aujourd'hui, ma moto que j'ai, elle est largement capable d'être aussi compétitive que celle qui roule en Grand Prix, quoi.
Ouais, un Grand Prix, souvent il y a des belles décos et un gros camion, mais ça ne veut pas dire que le moulin il marche forcément bien dans la moto, quoi.
C'est exactement ça. Et aujourd'hui, moi, c'est pour ça un petit peu que j'ai décidé de créer un peu ma petite structure parce que j'ai envie de mettre, voilà, plus les moyens sur ma moto, sur ce qu'on fait dessus, et l'à côté, ça m'est égal. Donc vraiment, on se fait des belles motos, on se fait des motos au top, on se fait plaisir. Et l'à côté, c'est un petit peu, voilà, une petite parenthèse, mais l'objectif, c'est d'avoir du matériel de fou et de pouvoir se faire plaisir sur la moto. C'est ce qui m'importe aujourd'hui quand je roule.
Il y a quelques années, quand justement ça s'est terminé avec le mondial, on te sentait un peu frustré par rapport à ça, le fait de ne pas pouvoir continuer. C'est quoi, à l'heure actuelle, pardon, ton état d'esprit? Est-ce que tu es remotivé? Ça te donne envie d'être reboosté et de réactiver et de réessayer d'aller jusqu'au niveau mondial? Est-ce que tu te dis, bon, l'objectif c'est l'élite et puis je vais rester ici en France pour performer au max en France?
Ouais, sincèrement, quand on voit les grilles de championnat du monde, un peu l'ampleur que ça prend, ça donne vraiment pas envie. Sincèrement, pourquoi retourner en Grand Prix alors que voilà, là-bas, enfin, en Grand Prix, ils te prennent un peu comme un pion. Et si voilà, quand tu es bon, tu es là. Quand tu es un peu moins dans le coup, bah, tu prends la porte de sortie aussi vite que tu es monté. Mais aujourd'hui, non, je regrette aucun de mes choix. Je suis vraiment content de ce que je fais aujourd'hui et ça me fait ça me, moi quand je suis sur ma moto je me fais plaisir donc c'est plus important de monter sur ma moto avec le fun et le plaisir donc revenir en Grand Prix non pas du tout ça me donne vraiment pas ce qui me donnerait plus envie ce serait de retourner enfin ce serait d'aller aux US faire quelques piges en 2,5 à l'outdoor ce serait sympa ça.
Un petit peu à la Romain Pape, bon, lui il a fait un 4,50, mais faire un petit truc comme ça te brancherait.
Ouais, ça me brancherait vraiment. Après, c'est toujours pareil. Il faut trouver un peu les combines pour pouvoir avoir du contact là-bas, pour pouvoir réussir à être bien et être dans de bonnes conditions. Après, la moto, voilà, on a quand même du matos qui fonctionne ici. Je sais que là-bas, c'est pas du tout pareil. Mais voilà, déjà essayer, voir. Et je sais que ça coûte quand même un billet. Mais tant que voilà, on peut le faire, faut le faire. Et je pense que c'est quelque chose à vivre et qui doit être sympa.
Au niveau budget dans le team cette année, c'est bon, vous avez réussi à rassembler ce que toi tu souhaitais. On a une question justement par rapport au fait du nombre de motos que tu passes dans l'année. Vous avez prévu quoi par rapport à ça? C'est quoi, deux, trois motos? Ou alors c'est une moto et changer régulièrement les pièces? Ça serait axé sur quoi?
Alors, déjà, on a l'aide, enfin, j'ai l'aide de Husqvarna France, donc ça, c'est un gros bonus. On a aussi le concessionnaire Atomic Moto qui joue le jeu. Et quand je vois, enfin, c'est des motos, c'est beaucoup de motos. Il faut savoir qu'on fait quand même des roulements de moto, donc on est quand même sur des 2,5. Il faut les changer régulièrement parce que bah, c'est des motos où ils sont menés un peu durement et c'est mieux de les changer régulièrement. Donc après, à côté, j'ai un 450 où ça me permet de rouler l'hiver sur le 450 et voilà, me commencer à me préparer pour monter sur le 2,5 au début du championnat, enfin, pour préparer les courses.
T'as une idée
Et
de nombre juste de motos que ça peut représenter approximativement en roulement?
En roulement, on est sur deux motos de 2,5 et puis on roule, on fait un roulement à chaque fois qu'il y en a une qui a à peu près 40 heures, on la change et puis on fait un roulement comme ça. Ça, c'est pour les crosses et après l'enduro, bah, parce que je pars aussi sur un programme enduro, ça, on est sur deux motos pour l'intégralité du championnat. Ah,
D'accord. justement, le programme, je voulais en parler un petit peu. Donc, cette année, Championnat de France Élite MX2, tu viens de nous le dire, enduro, est-ce qu'il y aura des cross inter? Qu'est-ce que, voilà, donne-nous ton programme 2024.
Le programme 2024, donc au tout début, c'était convenu qu'on fasse le Championnat de France Élite et le Championnat de France Enduro, donc 2,5 à l'élite et en E2 de 52 temps en enduro. Donc au tout début, les deux championnats, il n'y avait aucune course qui collait, donc c'était top, ça tombait super bien. Et sauf qu'il y a eu un petit changement de date qui a fait que bah, maintenant il y a une course qui tombe en même temps. Qu'il va falloir qu'on gère, voilà, un peu voir les situations, comment ça se déroule avec le Championnat de France Élite, le Championnat de France d'Enduro. Donc voilà, moi c'est Enduro et Cross, et ce que j'aimerais bien aussi, c'est faire deux Grands Prix en Enduro. Donc un peu, sachant qu'on a le dernier Grand Prix en Enduro, c'est le Grand Prix de France à Brioude. Donc, essayer, faire une course un peu avant Brioude pour pouvoir réussir à essayer de faire quelques performances sur le dernier Grand Prix et un peu me jauger, voir comment ça se déroule un championnat du monde d'enduro et avec des cross inter aussi en motocross en 450.
Fais une préparation spécifique pour cet enduro, parce qu'on sait que les crossmen qui viennent en enduro, qui doivent marcher les spéciales, retenir les spéciales, c'est quand même assez complexe. Est-ce que toi, tu t'es déjà préparé à ça, ou est-ce que tu te dis, bon, ça va le faire dans tous les cas?
Bah en fait, l'année dernière, j'ai fait trois courses. La première, j'étais un peu arrivé un peu comme ça, un peu sans trop penser à comment la discipline se déroulait. Et j'ai pris du plaisir à marcher, j'ai pris du plaisir à retenir les spéciales. Pour moi, c'était fun, j'ai kiffé. D'ailleurs, j'ai bien roulé à la première épreuve sans trop connaître un peu la discipline. Et puis voilà, j'ai pris goût, je suis allé à Chabreloche, là ça a été un peu plus compliqué parce que c'était quand même un terrain, enfin, des journées qui étaient top et compliquées par rapport à tout ce qu'il y avait, les rochers, les pierriers, tout ce
Ah, les liaisons étaient compliquées, c'est ça? C'était celle-ci?
très très compliqué. Donc là j'étais arrivé au moment où je me disais, ouais, je vais peut-être arrêter parce que c'est quand même dur, c'est costaud quoi. Et puis après, je suis allé à Requista, ça s'est bien passé. Donc voilà, on a décidé de faire un programme enduro. Et voilà, c'est une préparation spécifique pour te dire, je suis pas encore monté sur la moto d'enduro. Donc le championnat il commence dans plus d'un mois et on va commencer à monter dessus après Castelnau et se préparer tranquillement.
Supercross au programme ou pas du tout? On a eu Jean-Luc Fouché la semaine dernière. Il était chaud bouillant hein, pour faire venir des pilotes. Donc, non, voilà. Dis oui, s'il te plaît, Mathis, pour qu'on puisse lui envoyer.
Supercross, bah ça me trotte dans la tête, mais à un moment de temps, on peut pas tout faire. Je préfère faire un peu moins et bien faire les choses que faire beaucoup et faire moitié. Sincèrement, il faut des pistes. Donc, il faut des pistes. On sait qu'en Bretagne, c'est un peu compliqué par rapport à la météo, par rapport aux pistes. On va dire, on en a quasiment aucune. On n'a aucun club qui a une piste. La chance que j'ai, c'est que bah, le petit jeune Nicolas Duhamel, qui je m'occupe, lui, il a une piste privée, donc motocross, supercross. Donc pourquoi pas, on va faire des entraînements, on va voir un peu pour aussi changer la discipline et voir un peu comment ça se déroule. Donc on essaiera, ça c'est sûr. Après, d'être prêt pour une course, ça on verra et ce sera au dernier moment, je pense, qu'on décidera si on fait une course ou pas du championnat de France en supercross.
Toi, t'aimes justement cette discipline, le supercross, ou à la limite à choisir entre le supercross et l'enduro, bah, tu préférerais l'enduro?
Alors c'est une bonne question parce qu'il faut savoir que quand j'étais un peu dans le trou après mes années où j'ai été pilote en Grand Prix, j'ai voulu me relancer un petit peu, j'ai essayé de faire un peu de SX. J'ai fait deux entraînements et deux entraînements j'ai fini à l'hôpital. Donc mon dernier souvenir en SX, c'était pas le top du top, mais voilà, je pense que c'était une mauvaise passe. Et aujourd'hui, je suis bien dans la structure, je suis bien avec les personnes avec qui je bosse. On a des motos au top, donc il y a rien qui pourrait m'arrêter sur le fait que ça se passe bien. Il y a des années où j'étais en 85-125. Ça se déroulait bien, on avait de l'entraînement, on avait ce qu'il fallait pour pouvoir performer. Donc aujourd'hui, si je suis bien sur ma moto, avec les personnes avec qui je travaille, ça peut que fonctionner.
Bon, on a eu pas mal de questions sur cette histoire de tear-off, de roll-off. Voilà. Toi, tu l'as géré comment cette histoire avec la météo qu'il y a eu ce dimanche, notamment la matinée? Et en plus, il devait y avoir quand même des projections, même l'après-midi. Voilà, comment tu gères ça, toi?
Bah moi, il faut savoir que j'aime pas les roll-off, déjà. Je déteste ça. Et puis, sincèrement, quand il y a de la boue comme ça, c'est de la boue collante.
Ah, ça colle, ça se tire, on tire dessous, on casse le roll-off, c'est
C'est
compliqué.
exactement ça. Donc, on voit, il y en a qui ont été pas mal embêtés. Et il y en a qui sont un peu arrivés là-bas sans voilà, sans truc pour les tear-off. Donc, moi, j'avais un peu prévu le coup. J'avais prévu le matériel. J'avais préparé mes lunettes. Donc moi j'étais prêt et mes lunettes, voilà, j'ai roulé toute la journée en tear-off. Les tear-off, voilà, qui tiennent pas sur le fil, mais au final on en revient que le fil il sert à rien parce que
Ouais, ça se retrouve par terre.
tu regardes la majorité des pilotes qui ont le récupérateur de tire-off, il n'y a aucun qui a un seul tire-off. Il n'y en a aucun qui sort de la piste avec un seul tire-off sur le.
C'est vrai, ça marche pas. Donc, on
Ça
rappelle juste,
sert
hein, parce que c'est vrai
complètement.
qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas au courant de l'actualité. Cette année est sortie la règle qu'on n'a plus droit au tear-off. Pourquoi? Parce que le tear-off, on le met dans la nature et c'est vrai que ça pollue énormément, autant qu'un cargo qui s'échoue en mer. Et du coup, ces tear-off, il faut les récupérer sur un fil qu'on a ici. Le fil, bon, moi personnellement, je n'ai jamais testé. Toi, Mathis, tu nous dis que ça ne tient pas et les tear-off, au bout d'un moment, ben, on le sait, de toute façon, les tear-off qui flotte, normalement c'est logique que le fil ait intérêt d'être solide quand même pour les maintenir. Et c'est ça, tu penses que ça les maintient pas?
Bah, faut savoir qu'il y a, il y a qu'une seule marque qui fait ce récupérateur de tire-off. Nous, on a des partenaires, on est aidés. Moi, je suis aidé 100%. Donc, il y a des partenaires qui ne les ont pas développés, qui n'ont pas sorti. Donc, à mon temps, c'est compliqué. Eux, les tire-off, ils ne sont pas faits pour ça. Donc je pense qu'il y a, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de problème quand c'est du matériel qui est réglé pour ce genre de d'outils. Et là, le problème, c'est que bah, il y a aucun autre, aucune autre marque qui l'a développé. Donc, on est sur le fait que bah, tout le monde le met, mais il n'y a aucun tire-off qui est adapté pour ce genre de lunettes. Et moi, le problème, c'est que voilà, aujourd'hui, je roule avec quasiment là ce week-end, je mettais 28 tire-off. Donc,
Elle est laminée.
les laminés, 28. Ce qui fait que bah, à la fin, je ressors, il doit m'en rester 12, une douzaine, on va dire. Et les autres, bah, il n'y a aucun qui tient sur le fil. Donc, le fil en
Après,
gros.
est-ce que c'est dangereux? Il n'y a pas de problème quand même. Le fil, ça passe bien de l'autre côté. Il y a pas de, ça vient pas se bloquer.
Ah, mince, on a perdu Matisse.
Ça a bloqué. C'est là, tu vois. Donc, je parlais de tir-off bloqué, mais c'est le. C'est l'écran qui s'est bloqué.
Ça
Promis, on
nous
n'a
a
pas eu de timer.
Ah, c'est bon, on doit rentrer.
C'était pas les tire-off qui étaient bloqués, c'était toi là.
Ouais.
Ouais, je
Ouais, du
disais,
coup,
c'est
bah,
pas dangereux du coup,
pas dangereux quand
ça
même
ne
le
vous gêne pas.
tire-off qui flotte, cette histoire de
Bah,
fil non plus.
le tire-off en soi, il tient même pas. Tu le tires et il part. Donc, y a
Ouais,
rien de
en soi.
compliqué.
Ouais, c'est un petit peu comme les tapis environnementaux, quoi. C'est, on montre patte blanche, on dit qu'on est écolo en faisant ça,
C'est
et
ça,
bon,
au
au
final.
final, peut-être que la planète, elle ira mieux grâce à nous, mais bon, j'y crois pas trop.
Non, ouais, après, ouais, non, je sais pas. Oui, il faut que les marques ils développent un peu le système, mais avant de mettre ce genre de règles, il faut un peu discuter avec les marques pour voir eux ce qu'ils en pensent et s'ils sont capables d'assurer le fait que bah, si cette règle passe, est-ce que eux, ils ont le matériel nécessaire pour pouvoir fournir les pilotes de ce matériel, quoi.
Anticiper un minimum parce que clairement un roll-off qui vient se bloquer et quand on enlève les lunettes, ben, en termes de
C'est pire.
dangerosité, il n'y a pas pire, quoi. On se prend des
Et ouais,
pierres dans les
c'est
yeux, on se
pire.
prend de la boue dans les yeux. Et même en pleine ligne droite de départ, on fait un roll-off bloqué, c'est pareil, on n'y
Oh,
voit rien, on est obligé de
c'est une
s'arrêter dans les
catastrophe.
lunettes, compliqué quoi. Donc,
Et c'est pour ça que moi, je roule pas en roll-off parce que j'ai peur de ça. J'ai peur de que le roll-off il pète. Et puis après, bah, la manche, ça te pourrit une manche et tu perds des points pour inutile. Là, t'as plus de tear-off. Et t'essayes de nettoyer et point, et voilà quoi, l'écran est toujours là.
On
Exactement.
a, avant de passer à notre dernier invité ce soir, j'ai une dernière question, on l'a posée tout à l'heure à Maxime. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire pour attirer plus de monde sur les épreuves, pour que notre sport aille mieux, pour remplir les grilles? Une idée comme ça. Parce que là, on offre un t-shirt en commentaire. Hein, pour ceux qui n'étaient pas encore venus tout à l'heure, on offre un t-shirt pour la meilleure idée. Alors on avait tout à l'heure, il y en a un qui nous a suggéré de remettre l'alcool et les clopes. Voilà, comme sponsor.
Un partenaire, tu sais, un partenariat comme
Oui,
Chesterfield avec
pas pour que les pilotes se mettent des casses la veille.
Ah
Pas
ouais, non, non, non,
les
non.
pilotes de Jimmy et tout ça, non, pas pareil.
Bah, en soi, au championnat de France élite, c'est ça?
Ouais,
Ouais,
les
pour
limites, en
les.
gros, pour remplir un petit peu les grilles, faire que ça y ait plus d'engouement, faire qu'il y ait des
Bah,
partenaires qui
déjà,
reviennent,
en
et les
remettre
pilotes.
une prime de qualif beaucoup plus. Enfin, déjà, remettre une prime de qualif parce qu'aujourd'hui, il n'y en a même plus. Parce qu'il faut savoir qu'un pilote qui se fait plaisir ou qui veut essayer. Le championnat de France élite qui dépense voilà, 200 euros ou même déjà 120 euros pour l'engagement, ce qui est vrai relativement cher, il va perdre un billet de 500 ou 600 euros sur le week-end. Si déjà Tu as une prime de qualif à 200 euros, c'est déjà plutôt pas mal. Avant, moi j'ai toujours connu les primes de qualif, ils étaient qu'à 60 euros. 60 euros, avec 60 euros, tu fais rien, tu fais le plein du bidon de la moto pour le week-end et c'est tout. Mais déjà, s'ils remettaient une prime de qualif, ce serait déjà pas mal pour la majorité des pilotes qui sont qualifiés. Ça les aiderait et ça, je pense, pour moi, ça motiverait certains à venir tenter le déplacement, quoi.
En fait, c'est toujours l'entonnoir qui est difficile. C'est-à-dire qu'à la fin de l'entonnoir, on a les pilotes qui ne sont pas payés. Et au début de l'entonnoir, on a les partenaires, le public, les pilotes, le nombre de pilotes qui payent des engagements. Et du coup, petit à petit, ça rétrécit. Et quand on a moins de pilotes, moins de public, moins de tout ça, et du coup, on a moins d'argent à la sortie. Et c'est ça qui est
C'est
difficile. C'est
ça.
arriver à trouver l'idée pour faire venir des partenaires et du public qui va au final, à terme, financer les pilotes derrière. Et faire que notre sport va aller de mieux en mieux. Et là, ce n'est pas le cas, en tout cas. Quand on voit que les grilles se vident et le coût de la vie augmente, c'est difficile de faire venir plus de pilotes, quoi.
Ouais, c'est fou, hein, ça. Ah, sachant que nous, là, en MX2, on était quand même une cinquantaine, donc ça va, c'est relativement pas mal, enfin, c'est bien, mais en MX1, première course, enfin, on est sur une première course, et ils sont une vingtaine, qu'est-ce que ça va être à la dernière course?
On a
Ils
une
vont être
suggestion
millions, quoi.
intéressante. On a une suggestion intéressante. Et tiens, je me suis curieux de savoir si tu accepterais un partenariat. Il y a Gérald, pardon, qui nous dit OnlyFans, partenaire officiel de l'élite en 2025. Est-ce que tu accepterais un partenariat avec des choses qui peuvent être voilà, un peu bizarres, un peu
Un peu
voilà,
olé-olé,
pas
disons-le. Vas-y, sors des mots.
Alors, tu me poses la question parce que tu sais un peu lequel le genre de partenaire que j'ai ou c'est juste
Non, non,
relativement
mais en
comme
fait,
ça?
si tu veux, il y a OnlyFans, je sais qu'aux US, il y a quelques sites comme celui-là, je ne sais pas si c'est OnlyFans ou un autre.
OnlyFans, ouais, c'est OnlyFans ouais, qui est
OnlyFans,
un
oui,
pilote
il y a
privé, ouais.
OnlyFans, il y a ces types de sites, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui nous écoutent, la plupart connaissent à peu près le principe de OnlyFans. Ça, je n'ai pas besoin d'expliquer comme les tir-offs tout à l'heure. Mais en gros, est-ce que ça pourrait être un partenaire s'il te proposait, voilà, à même titre que
Bien
les autres
sûr, parce
partenaires?
qu'actuellement, j'ai une partenaire qui est dans ce genre de domaine. Donc,
D'accord, ah, ok, d'accord.
c'est pour ça que je t'ai posé la question. Et
Ah non, je ne savais pas, tu vois.
ouais, si, si. Et il y en a beaucoup.
C'est
Voilà,
Little
ils se
Angel,
demandent
c'est ça?
c'est quoi. Et ouais, c'est ça. Et
Ah oui, non.
ils se demandent c'est quoi. Et puis après, tu leur racontes. Et puis, ah ouais, bah ouais, ils connaissent. Et puis voilà. C'est
T'as
toujours
un
un
accès.
peu fun
T'as un
et
accès. Ce
léger.
que je veux savoir, c'est si tu as un accès illimité ou pas, toi.
Non, pas d'accès illimité, on reste toujours professionnel et voilà, le boulot c'est le boulot et le sponsoring c'est du sponsoring.
Bon, parfait, mais du coup, on est tombé pile sur le bon truc, tu vois.
Voilà,
Voilà.
c'est ça. Ils sont chauds bouillants, ces Bretons.
Ouais.
Bon, merci beaucoup Mathis, c'est cool, merci pour ton
Merci à
temps,
vous.
on t'a expédié un petit peu, mais voilà, on a essayé ce nouveau format avec trois pilotes, les trois vainqueurs de ce week-end, on va passer à Manofort, le vainqueur junior en suivant. Bonne soirée à toi Mathis et on se voit
Merci,
bientôt
salut
sur les
les gars.
Merci Mathis. À bientôt.
Salut. Salut
Allez,
Mano, comment ça
bonsoir à
va? Le
tous.
vainqueur junior. Bon, on t'entend, tu nous entends, tout est bon, magnifique. On est là, on est sur un 3 sur 3, Blaise, ça commence à être
Très
rodé.
bien. Attends, on n'a pas encore bien entendu Mano. On va voir si ça saccade pas, mais normalement, on est bon là. Niveau technologie, on est
Ouais,
bien.
des problèmes de connexion.
Ouais, c'est ça, c'est ce que j'entends un peu. C'est pour ça que
C'est
j'entendais du.
bon, ça va le
Bon,
faire.
ça va
On
le
va
faire.
parler doucement, on va décrypter, t'inquiète.
Oui.
Bon, ça va, bien rentré de Bali, Manon, t'as repris l'entraînement déjà cette semaine?
Ouais, tout à fait. On a repris l'entraînement aujourd'hui à Magesque aujourd'hui.
Ok.
Ouais.
Première
Très bien,
épreuve de la
bon.
saison, première victoire, c'est plutôt cool, surtout dans des conditions comme ça devait pas être simple, même si j'ai vu les chronos, tu devais être assez serein après le samedi, mais ouais, est-ce que tu t'attendais à cette première victoire sur cette première épreuve?
Ben, franchement, j'allais pour gagner. Après, j'avais fait un bon hiver, donc mon objectif c'était de gagner. Déjà, l'objectif premier c'était de gagner. Avoir la vitesse pour l'Europe pour m'entraîner. Et j'ai mis au point les choses qu'on avait fait en hiver avec Thierry et ça a plutôt bien marché. Après, j'ai fait quelques erreurs, donc ça m'a permis d'apprendre pour l'Europe, pour la suite. Et du coup, assez content.
Comment ça s'est
Rappelle-nous
passé
ton
du
âge,
coup,
pour toi.
Mano, juste pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai que c'est la
Oui.
première fois qu'on t'a dans le live, on aurait aimé t'avoir un petit peu plus longtemps, mais t'inquiète, on fera ça à la fin de la saison quand tu seras champion d'Europe, ça c'est promis.
Ouais,
Mais ouais, dis-nous ton âge.
j'ai 14 ans.
D'accord. Tout jeune pilote, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton hiver, comment ça s'est passé? Voilà, où tu es basé? Comment?
Vous m'entendez?
Ouais, c'est bon, nous on t'entend. Je te disais juste, est-ce que tu peux nous expliquer ton hiver, tu sais?
Ouais, du coup, là, je suis basé à Hossegor. Je m'entraîne avec Thierry Vandenbosch. Du coup, l'hiver s'est bien passé. On a été en Espagne. Enfin, plutôt un hiver pas mal. Depuis la première fois, un hiver pas mal. Où je me suis entraîné autant, je me suis investi. Et puis, vraiment pas mal, ouais.
Ouais, quand tu dis un hiver pas mal, c'est que tu as roulé un peu dans le sable, un peu ouais. Et...
Franchement, là, c'est. Vu avec les conditions météo qu'on a en France, on n'a fait que du sable presque cet hiver. Puis on a changé, on est parti en Espagne pour aller rouler dans la terre, mais sinon, ouais, c'est vraiment top. Ouais.
Tu es un bon
Te
pilote dans toutes
concentrer.
les conditions, toi. Ça fait un petit moment déjà, même quand tu étais en 85, tu mangeais du sable alors que tu es un sudiste. C'était quand même pas évident de s'entraîner dans le sable pour toi. Tu es bon dans la boue, tu es bon dans la terre. Est-ce que tu as aussi commencé à t'entraîner, à rouler un petit peu en supercross?
Non, là, pas encore. Pas encore, pas
Ok.
encore, parce que. Ben moi, l'objectif premier, c'est l'Europe. Et du coup, si je viens faire une erreur en faisant du supercross ou des trucs comme ça, ça serait pas cool.
Ouais, c'est quoi? C'est une décision que tu prends toi, ton entourage, c'est le team qui te dit plutôt non, concentre-toi sur le motocross ou
Ouais,
comment ça se passe?
c'est un peu le team, moi, et puis l'entraîneur, enfin un peu tout le monde. Ouais.
Ouais, ton objectif, ça serait Europe, mais ça serait Europe dans combien de temps, dans l'idéal?
Là, ce serait Europe cette année, Europe l'année prochaine, après peut-être être
Ah,
championne d'Europe.
excuse-moi, je parlais du... Voilà, objectif pour moi, c'est le titre, mais l'objectif titre, ça serait dans combien de temps, dans l'idéal?
En 125 ou plus tard?
Ouais, là maintenant, là, en 125, là.
Bah, là.
Est-ce que tu te vois déjà dès la première année jouer titre, podium, tu te vois où toi?
Pour ça, donc il faut cette année, il faut être là, il faut être champion, quoi.
Ok, ouais, je pensais que tu m'aurais dit ouais, une première année pour voir un petit peu, pour faire un podium, et
Bah,
puis
la première
après.
année, c'était la fête l'année dernière. Du coup,
Donc c'est
pas
bon.
d'excuses.
Ouais, c'est vrai que c'est bien. Du coup, là, tu es déjà dans un bon mood. Parce que je t'ai posé la question tout à l'heure aussi. Est-ce que tu t'attendais à gagner? Oui, ben ouais, tu étais là pour gagner de toute façon ce week-end. Donc, autrement, ça t'aurait un peu embêté. Tu as réagi comment d'ailleurs en première manche quand tu as fini deux de la première manche, c'est ça?
Non, troisième.
Troisième, ok. Et alors, c'était comment quand tu es rentré au camion?
Bah, franchement, un peu énervé, un peu déçu. Parce que j'avais fait le job dès le début et j'avais fait des petites erreurs. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas gagné. J'ai fait beaucoup d'erreurs et un peu déçu, ouais, franchement, ouais.
On voit le championnat, tu fais 3 et 1. On voit que les trois premiers, vous êtes vraiment serrés entre à, ouais, à 2 points entre les trois premiers. Serrés. Tu le sens comment, toi, au niveau de la bataille, on va dire, sur cette année? Tu sens que tu étais à l'aise, donc ça va aller, ou au contraire, tu sens qu'il va y avoir quand même pas mal de batailles avec les autres pilotes?
Non, en vrai, je pense que ça va aller. Après, c'était une course assez difficile avec la boue. Du coup, c'était assez mitigé les positions. Mais du coup, je pense après, quand ça sera sec ou des trucs comme ça va aller. Ça va se faire à force, les écarts.
Ouais, tu sens que tu es vraiment prêt et que voilà, tu étais vraiment serein par rapport à ça.
Ouais, je suis prêt là. Je suis prêt.
C'est bon.
On a Ralitété encore qui commente sur YouTube qui nous demande si tu es sous contrat. Et j'avais justement une question par rapport à ça. Donc tu es rentré dans le team MJC. Et voilà, être sous contrat, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie zéro dépense pour papa et maman? Est-ce que tu as des sponsors personnels à côté de ça? Comment ça se passe quand on a 14 ans et qu'on rentre dans un team pour faire l'Europe aujourd'hui?
Ben alors déjà le contrat c'est signé, c'est sur du papier. Sur plusieurs années. Là j'ai signé un contrat de 2 ans chez MJC et 1 an chez BRT. Donc 3 ans avec YAM. Ben, après sous contrat, c'est. Le team, ils te mettent en fonction des choses, enfin plein de petits trucs. Après moi, je vois ce que je veux faire. Par exemple, là, cette année, je pouvais m'entraîner avec Paul Aronnet, ça allait coûter 0 de ma poche. Sauf que moi, je préférais m'entraîner avec Thierry parce que depuis le début, je m'entraîne avec lui, ça matche bien. Et du coup, je préfère être m'entraîner avec lui. Le team m'oblige pas, donc pas de m'entraîner avec Paul Aronnet. Et puis voilà. Après, il y a des choses, oui, à payer de notre part quand même.
Ok,
Et
comme quoi, comme les déplacements pour aller s'entraîner, tu sais dire ou
ouais,
tu peux dire certaines choses?
déplacement pour l'entraînement, l'essence, le gasoil. fait plein de petits trucs juste pour l'entraînement, pour l'Europe, pour le France aussi. Après, tout ce qui est l'Europe, les billets d'avion, enfin tout ça, c'est le team qui prend parce que eux, leur objectif premier, c'est l'Europe et c'est pas, c'est rien d'autre, quoi.
Et actuellement, du coup, tu vis tout seul? Ou pas?
Non.
On n'a pas entendu ça couper.
Je vis avec mon mécano.
D'accord, ok. Donc ça, ouais, c'est à 14 ans, je me disais à 14 ans tout seul, ça doit être peut-être un peu compliqué, mais c'est bon. C'est lui qui te fait manger, qui te fait les jambons pâtes, c'est bon.
Non, je fais à manger. Ouais.
C'est bon, tiens, oui, tu gères même à 14 ans.
Je gère. Ça
Ça,
va.
c'est bon. Vous alternez.
Du coup, tu as déménagé, tu es du côté d'Hossegor, c'est bien ça?
Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait.
Et le team est basé où? Ils sont en Bretagne, MJC?
À Vannes, je crois.
D'accord, tu vas, tu, au final, tu vas jamais, t'as rien à voir avec le team par rapport à ça. Enfin, est-ce que tu es obligé d'y aller de temps en temps? Comment ça se passe?
Des fois, on a des tests et du coup, on est obligé de monter, mais rarement.
Ok. Est-ce que tu penses que Hossegor, là, aujourd'hui, c'est le meilleur spot en France? Enfin, Hossegor, quand je dis Hossegor, c'est Magesque et tous les circuits qu'il y a autour, ce coin-là de la France. Est-ce que tu penses que c'est le meilleur spot en France pour faire ton métier au final, pour devenir pro en motocross?
Ouais, ça c'est une bonne question. Après, ouais, je pense que c'est en vrai c'est quand même pas mal ce gore vu qu'on a des pistes sauvages de sable et c'est des pistes assez dures physiquement, mentalement, vraiment assez dures qu'on peut bosser tout l'hiver, tout pas mal. Contrairement à aller à, je sais pas, du côté du sud, aller à Beauvoisin où c'est tout plat ou à des pistes toutes plates et genre tout l'hiver t'en chies pas et du coup après t'arrives sur des courses t'en chies alors que là tout l'hiver on en a chié bien et du coup après on arrive sur des pistes normales et on met du gaz et puis voilà.
J'ai l'impression que le sud-ouest, c'est un des rares endroits où officiellement il y a un terrain d'ouvert quasiment tous les jours, comme Magesque. Et ensuite, tu peux du coup alterner sur les autres terrains qui ouvrent le week-end ou qui peuvent ouvrir ponctuellement pour les teams. Donc, j'ai l'impression, en tout cas d'un point de vue extérieur, que maintenant, le spot pour arriver à rouler régulièrement et atteindre le bon niveau, c'est vrai que c'est plutôt vers là-bas. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Mano, si par rapport à tes collègues du junior, eux, ils peuvent aussi s'entraîner aussi régulièrement que toi en étant dans d'autres coins de la France. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Bah, après, moi je parle pas avec les autres, je m'en fiche un peu des autres. Genre, je suis plus focalisé sur moi-même. Et bah, après, je pense ouais que là où on est, je pense qu'on est vraiment pas mal. Parce que après, c'est aussi dur avec la météo. Parce que par chez nous, ça change vachement avec la pluie. Il peut pleuvoir dans 10 minutes là, par exemple, maintenant, ou des trucs comme ça. Mais vu qu'on a du sable, ça roule tout le temps, même si on use tout, pas grave.
Avant tout le monde est en arbre, tu vois, en réalité, qui commence avant tout le monde allait à Lommel, mais j'ai l'impression que maintenant beaucoup vont du côté de Magesque. Est-ce que tu vois d'autres pilotes de l'Europe, du mondial, ou c'est plutôt des Français qui roulent vers Magesque?
Moi, franchement, cet hiver, j'ai vu personne. J'ai vu que les mecs du sable rouler aux pistes sauvages là, un
Ouais.
jour ou des trucs comme ça. Mais Lommel, moi, franchement, je suis jamais allé à Lommel à l'entraînement. Je suis allé qu'à la course. Et puis voilà.
Et le 125, enfin toi, tu nous as dit que tu avais signé pour 3 ans. Est-ce que ton passage en 2,5 est déjà programmé
Ben,
d'ici
ce
deux
sera la
ans?
troisième année, du coup, c'est chez
Deux ans,
VRT, c'est
c'est
ça?
la deuxième. Tu fais 2 ans 125, une dernière année en 250?
Bah, là, ce qui est prévu là, dans l'idéal, c'est là cette année 125, l'année prochaine 125 et 2,5 dans 3 ans. Mais si je suis champion cette année ou des trucs comme ça, si je mets du gaz et qu'on voit bien que c'est cette année, on est bien et que ça sert à rien de repartir pour une année de 125, je pense que je passerai en 2,5.
Ouais, ça peut changer, c'est pas figé, quoi. D'accord.
T'es content, Mano, d'être en 125 ou t'aurais préféré passer direct en 2,5?
Non, franchement, je suis quand même content. Parce que le 125, c'est des étapes où je pense que c'est pas à brûler. C'est quand même assez dur. Ça change de niveau. C'est les mecs qui sont morts de faim. Enfin, il y a plein de choses à apprendre comparé au 85. Que le 2,5, je pense que t'arrives et tu passes direct au 2,5 et t'arrives et les mecs, ils sont encore plus forts que toi. Et tu sais pas comment ça se passe. Tu sors du 85, c'est un peu chaud, quoi.
Ouais, surtout que physiquement, tu te positionnes comment là par rapport à tes adversaires? T'es grand, est-ce que tu as fini ta croissance? Tu vois, c'est vrai qu'à ton âge, il y a plein de trucs qui peuvent rentrer en jeu, quoi.
Bah, Là, j'ai grandi, là, ces temps-ci, j'ai grandi. Et bon, après, je suis pas très, très grand non plus. Je suis pas très, très gros. Mais moi, ça va. J'arrive quand même à tenir la moto plus qu'avant, quand même.
Tu nous as dit que tu n'allais pas faire de SX, bon, pour pas prendre le risque de te blesser. Est-ce que du coup tu prévois une saison d'hiver dans le sable? Je pense au Touquet Junior, à ce genre de choses, à préparer en tout cas ces Touquet Junior. Est-ce que ça te dirait ça?
Cette année, je voulais le faire, mais c'est trop compliqué parce qu'on veut vraiment préparer l'Europe et c'est notre objectif. L'Europe, c'est rien d'autre.
Du coup, ça te prépare. Tu penses pas que ça te préparerait ça,
Non,
le fait de préparer? Non, c'est pas pareil.
apporter de plus. Mais peut-être le Supercross, là, la saison se termine tôt, du coup, à voir pourquoi pas le Supercross, mais ça dépend si ma saison s'est bien passée, enfin plein d'autres choses.
Ok, ouais, tu te laisses le temps de voir quoi. Tu verras à la fin de la saison.
C'est ça.
On a une question sur Instagram. Alors, il voulait rester anonyme, hein, c'est MQPMX319. Voilà. Puis c'est son pseudonyme. Hein, il faut rechercher les pilotes qui ont le numéro 319 ou faire vos petites recherches. Il veut savoir si Manofort a une copine.
Ah, non, non, pas pour l'instant.
Voilà,
Focaliser
belle dame.
sur le motocross, quoi.
Il a dit, il a dit.
C'est trop compliqué.
Hein.
Bon, du coup, ouais, tes semaines se passent comment en ce moment? Ça serait, si tu pouvais nous résumer une semaine en une phrase, ça serait explique-nous un petit peu du lundi au dimanche, comment ça se passe pour toi?
Ben alors là, ben là on est vu que là c'est les courses et tout, on est plus sur du tranquille, enfin on essaie de se poser entre les semaines. Par exemple là, Bud il a une course, Mathis Van il a une course la semaine prochaine, enfin là ce week-end qui arrive. Du coup cette semaine on s'entraîne pas beaucoup, moins de sport qu'avant. Mais sinon pendant l'hiver on roulait le lundi, le mardi, genre après par exemple on roulait le lundi de 9h à 13h ou jusqu'à 15-16h. Apprendre à aller faire du sport un petit peu, du courir ou des abdos, enfin plein de petites choses de petites choses comme ça. Le mercredi, on fait du vélo le matin et l'après-midi, on fait des exercices. Le jeudi, le vendredi, à la moto avec le vélo qui suit derrière l'après-midi. Et le samedi, la journée la plus longue de vélo. Et le dimanche, journée de repos.
Ça te plaît de faire du sport à côté ou tu le fais juste parce que c'est ton métier là aujourd'hui et qu'il faut le faire pour la
Non, non,
moto?
ça me plaît parce qu'après, dans l'hiver, je me suis quand même posé des questions. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais après, quand tu arrives sur les courses, ben, tu es content, quoi. Tu es là, si tu gagnes, ben, tu es content d'avoir fait tout ça pour avoir réussi, quoi. Que si tu fais rien, tu réussis pas, après, tu seras déçu, quoi.
Bon, tu nous parles de Mathis Valin, il a commenté quand même. Il nous dit que depuis ta victoire, tu n'as pas qu'une copine. T'as pas seulement une copine. Donc c'est bon. Mathis nous a quand même relayé l'information. On se devait de la transmettre. Plus grand nombre.
En fait, n'empêche, ça peut être une solution, ça, pour attirer du monde sur les épreuves. C'est de faire venir plus de pilotes juniors comme ça, qui sont chauds bouillants. Parce que
Ouais.
bon, il va pas faire venir des gens passionnés de moto, mais ils vont faire venir des meufs, quoi. C'est
Ouais,
ça.
c'est une solution.
Ah, peut-être.
Enfin bon, il fait pas beau temps sur le junior d'avoir une sœur et l'amener sur le paddock, ça c'est sûr. Alors, on a eu plusieurs fois la question. C'est quoi cette histoire de tour supplémentaire là? Ça fait deux fois
Ah.
qu'on nous demande un commentaire.
Non, parce que en fait, il y a eu un problème avec je sais pas, le monsieur qui mettait le panneau un tour. Genre, en fait, je suis passé à 3 tours de l'arrivée. Et déjà, il oublie de me mettre le panneau 2 tours. Du coup, après, il me met le panneau 1 tour direct. Et après, du coup, je savais que c'était le dernier tour. Du coup, moi, tranquille, je roulais doucement. Enfin, je gérais, quoi. Après, on me dit bravo, c'est bon, au panneautage. Donc, je savais que c'était fini. Et malheureusement, genre, pour moi, tu sais, j'avais vu l'arrivée. Enfin, voilà, que c'était gagné, quoi. Du coup, je sors de la piste. Et en sortant de la piste, on me fait, ouais, c'est pas fini, trace, trace, trace. Du coup, en rentrant dans la piste. J'arrive, bah c'est pas bien de ma part, mais j'avais pas regardé, du coup ben, on me dit trace, vu que j'étais premier, pour moi c'était bon quoi.
Ouais,
Je reprends
oui,
la piste.
bah, oui, t'as le cœur à 180. Bon, ça, c'est
Ouais,
le genre de truc qu'on peut pas trop t'en vouloir.
c'est là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je rentre sur la piste et là je me tape avec un retardataire, je tombe, je me relève. Et du coup au final en fait je sais pas, le mec du drapeau, il je pense qu'il avait eu trop bu d'alcool et du coup il avait oublié de mettre le drapeau. Parce que.
Ouais, c'était bon. La manche était bien finie, du coup.
Ouais. Non, la manche était finie parce que le chrono s'était arrêté et tout. Donc,
Ok.
en soi, on a fait un tour supplémentaire, quoi.
Ouais, du coup,
Ah, c'était pas.
une petite erreur, c'est t'as fait monter le cœur à la fin de la manche, quoi.
Ah, ouais, là. Ouais.
Du coup, on a posé la question à Mathis tout à l'heure. Les roll-off, t'étais plutôt roll-off toi hein, ce week-end. Il me semble voir des photos.
Ouais, roll-off, ben parce que j'avais pas de système encore, je ne savais pas.
D'accord.
Roll-off.
Ok. De toute façon, sur l'Europe, tu vas avoir des lunettes classiques, tu n'auras pas besoin du système de récupération.
Ouais, c'est ça,
Ouais,
tir-off, non.
il n'y a pas la règle en Europe. Ouais.
Je
C'est
crois
pareil.
pas.
Pas pour l'instant, en tout cas. Après, c'est. Tu t'es plutôt tir-off ou roll-off? Parce que dans les conditions qu'il y avait là, c'est vrai que le roll-off, ça peut avoir tendance à bloquer des fois avec des gros paquets de boue. Toi, ça t'inquiète pas?
Bah, moi déjà, ouais, c'était les essais et ces chronos, genre avec la boue, genre les projections, ça tapait quand tu lunettes, le fil il sortait, tu vois, du coup je tirais vite, mais ouais, c'est vrai que c'était mieux les tir-off, mais après j'avais pas de système de tir-off, du coup, c'était
Ça va
pas
se
grave.
régler petit à petit. Petit à petit, tout le monde va arriver à mettre au point un petit système, soit le système maison
Ouais, moi
calculé, il suffit qu'il y en ait un.
j'avais pas ce qu'il
Ouais,
fallait encore.
t'as pas ce qu'il fallait, mais je pense qu'à la force, il va y avoir un papa ingénieur là, qui va nous sortir quelque chose et que tout le
De
monde va
pêche.
copier.
Les dernières files de pêche accrochées aux lunettes au tir-off, mais nickel.
Oui, voilà, quelque chose d'un peu solide, ça va le faire.
Mais en plus, ce qui était bien, c'est que tu tirais les tir-off et ils tenaient pas derrière. Du coup, t'avais pas tout le tir-off qui était là de toute la manche à taper là derrière.
Oui, il s'arrachait et du coup il partait. Oui, donc un système qui est au final pas si efficace que ça, quoi.
Non, mais de toute façon, j'ai regardé ce week-end tout le monde qui avait des systèmes pro grip. Il n'y avait personne qui avait les tir-off derrière.
Ouais, même avec les pro-grips, ça partait?
Ouais, j'ai vu, ouais.
Bon, à voir.
Ça
À
fonctionne
voir, à voir.
pas. Ouais, en fait, le problème, c'est que je pense que c'est bien adapté aux lunettes pro-grip, aux tir-off pro-grip,
Ouais,
mais. Mais après, ouais, quand tu as d'autres tir-offs avec les laminés, ça fonctionne pas a priori.
non, ouais.
Là, ils sont trop fins, laminés. Là, c'est les
On
laminés qui
a.
doivent s'arracher. Donc, du coup.
On a posé la question aux deux vieux avant toi, à Mathis et à Maxime, qui ont un petit peu plus d'expérience de retour là-dessus. Ils ont vu notre sport évoluer. Toi, aujourd'hui, là, à 14 ans, tu en penses quoi quand tu vas sur une épreuve de l'élite? Est-ce que ça te donne envie? Alors, il faut se projeter un peu en tant que fan. Là, t'es pilote et tout, t'es concentré sur autre chose. Mais est-ce que notre championnat de France élite, il fait envie aujourd'hui? Est-ce que toi, tu serais prêt à amener des potes à toi et leur dire, regardez, c'est un beau spectacle, c'est cool. Voilà. Dis-nous notre avis là-dessus. Est-ce que tu penses que notre sport est cool aujourd'hui au niveau élite?
Bah franchement je pense pas parce que déjà bah, moi je pars je sais que dans tous les cas je vais perdre de l'argent que vraiment je vais à l'élite pour m'entraîner pour l'Europe ce qui est dommage ouais c'est qu'il y a vraiment pas assez de sous après je vais pas me plaindre il y en a déjà mais par exemple on gagne une manche on gagne une manche en 125 comparé aux 85 on prend que 20 euros de plus de la manche ce qui est pas normal alors que 125, c'est quand même une autre étape, c'est un autre step. On a travaillé tout l'hiver pour ça et avoir 20 euros de plus que les 85, c'est pas normal.
Ouais,
Ouais.
du coup, on revient tous au même souci des
Et
pilotes, en gros. C'est le souci
en
d'avant.
plus, avant, il y avait la qualif. On prenait 50 euros dès qu'on était qualifié. Donc le mec qui se qualifie, qui fait 30e et qui marque pas de points dans les manches, ben, il n'a pas de sous, quoi. Il est dégoûté. C'est dommage.
Ouais, bah c'est vrai que c'est le nerf de la guerre. C'est un petit peu tout ce qui est ressorti hein, ce soir, quel que soit l'âge au final. Mais ouais, il faudrait déjà récompenser les pilotes, payer les pilotes, mettre un petit peu plus d'argent là-dessus et ça relancerait potentiellement notre sport. Après, il faudrait qu'on reçoive dans nos lives d'autres personnes qui ont d'autres intérêts aussi et qui, voilà, qu'il n'y a pas que les pilotes, il y a aussi les clubs. Il y a beaucoup de monde en fait dans ce système-là. Mais ouais, vous avez en tout cas les pilotes tous le même avis.
Ouais, puis chacun a des problématiques différentes. Le pilote a la problématique de payer son transport, le club a la problématique de ben,
De payer,
d'organiser, la FFM a une autre problématique de couvrir l'épreuve. Voilà, il y a tout, chacun a une problématique différente qui fait qu'à un moment donné, ben, on manque d'argent et tout le monde en manque, donc c'est compliqué.
Et en plus, le problème, c'est que les engagements sont à 120 euros. Donc, au final, au moins, genre, tu fais dans les 10 premiers, t'as l'engagement remboursé, quoi.
C'est
120
clair.
euros.
100 euros, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu le montant de l'engagement de l'élite, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, et du coup, ben, ça, il y a une évolution énorme là, c'est
Ouais,
étonnant.
c'est ça. Parce que moi non plus, avant, je regardais pas rien, on m'inscrivait et tout. Là, cette année, vu que c'est moi qui veux faire l'élite, c'est mes parents qui doivent payer. Là, j'ai regardé 120 euros, franchement, c'est beaucoup, quoi.
Ouais. Sur papy, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'il faudrait trouver de quoi pallier à ça pour les pilotes. Ouais. Mais...
soit ajouter plus de primes ou rembourser l'engagement, faire des trucs comme ça. Il faut parler avec la Fédé.
Balancez vos idées en tout cas en commentaire. Nous, on a eu les idées des pilotes. On a eu des idées tout à l'heure aussi un petit peu sympa. Allez-y, on fait gagner un t-shirt à Mix Réflexion. Déjà, ça part de là, Blaise. On est en train d'aider l'élite là. On récupère des idées. On offre un t-shirt.
Mais c'est ce que Mix Réflexion, sponsor officiel. C'est ce que nous dira l'ITT AMX, c'est ce que j'avais en tête moi. C'était il y a 15 ans, ça me fait mal de dire ça, mais c'était il y a en plus 10 ans, c'était la moitié. C'est vrai que moi j'avais en tête 70 euros l'engagement à l'élite quand on roulait à Gaïa, quand on faisait des élites comme ça dans notre région.
Ouais, bon, c'était en 2008. En tête,
ouais, 2010, ouais, non, c'est 15 2010, ans. Ouais. Je tire, mais c'est 15 ans. Et du coup, c'était bien ça. C'était dans les 60-70 euros. Et du coup, on est passé à ça.
Ouais, bon, après, voilà, le coût de la fin. Là, il y a plein de choses qui ont augmenté aussi. Voilà, c'est la vie aussi. Ouais, voilà, mais bon, c'est pas du simple au double quand même.
C'est proportionnel au coût de la vie. Mais en fait, si tu veux, on avait des primes. Quand on payait 120 euros à la qualif, de mémoire, on était à 90 euros la qualif. Donc, ça, quand même, il y a eu une sacrée différence entre ce qu'on paye. Et ce qu'on gagnait avant, on payait 70, on avait 90 euros de qualif, quelque chose comme ça. Mais ça nous remboursait dans tous les cas. Donc,
Désolé Mano, t'as pas vu que la bonne époque. C'était mieux avant, comme on dit nous.
Ouais. C'était mieux avant, mais bon.
C'est pas grave.
C'est pas grave. À la fin de l'année, tu vas voir, tu auras quand même le sourire. Tu seras toujours aussi pauvre, mais tu seras champion d'Europe et tu auras de l'avenir. Et ça sera cool.
Non, il faut être champion. Ouais.
Bon, c'est cool. Merci en tout cas, Mano. C'était cool d'avoir accepté. Tu étais le dernier à passer. Et on se refera, j'espère, un live en fin de saison un petit peu plus long pour dévoiler un peu plus ta personnalité et que tu nous dises la vérité sur le nombre de copines que tu as. Parce qu'a priori, tu nous as menti ce soir.
C'est ça qu'on veut savoir.
On va arrêter. Bon,
merci en tout cas, les gars. Bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live. Salut à tous.
Allez, merci. Bonne soirée à tout le monde.
Salut.
Bye.